Lisbeth Rocher, avec une camarade de Fatima Cherkaoui, vous venez de publier un ouvrage intitulé D'une fois à l'autre, où vous avez étudié le phénomène des conversions à l'islam en Occident. Comment vous êtes-vous intéressé à ce phénomène?
Le premier déclic, en fait, c'est une anecdote que je peux vous raconter. C'est un ami qui travaille à Air France et qui nous racontait, il y a 3-4 ans, sa surprise du jour. Il avait vu 50 Français, avec les passeports, partir pour le Hajj, pour le pèlerinage à la Mecque. Et donc, lui-même est algérien et était surpris de voir tous ces Français le même jour partir pour le pèlerinage. Je me souviens que le premier déclic a été celui-là. Et ensuite, ça a été de rencontrer des êtres que nous avions rencontrés, connus dans d'autres mouvances, je veux dire plus, parfois plus militants, plus politiques, enfin disons les mouvements gauchistes bon, après 68, etc. Faire ce pari aujourd'hui sur l'islam et devenir musulman aujourd'hui. Donc c'est ce trajet de la croyance plus idéologique à la croyance religieuse, ce retour au religieux aujourd'hui, nous interroger aussi. Alors comme nous sommes toutes deux très curieuses de tous les mouvements d'idées de notre époque, en fait, c'était cette curiosité-là, plus qu'une curiosité de type religieux au départ, vous voyez, même si l'enquête a transformé certaines choses, bien sûr, au fur et à mesure. On ne sort jamais vierge d'une enquête aussi approfondie.
Alors, qui sont ces convertis? Enfin, certains noms sont assez connus, des noms de grandes vedettes,
Oui.
mais de façon générale, qui sont-ils, ces gens-là?
Toutes les couches socioculturelles, tous les milieux, tous les âges sont représentés, vraiment. Aux bourgeois, les classes moyennes, les artistes, les intellectuels, les manuels,
Il y a des manuels.
aussi beaucoup, des ouvriers, nous en avons rencontré aussi. Avant, ils étaient soit agnostiques, incroyants, soit déjà croyants en une des religions monothéistes. Il est très difficile, en fait, on peut dire que tous les milieux sont représentés, réellement. Certains disent qu'il y a même plus de femmes que d'hommes qui se convertissent aujourd'hui en Occident à l'islam,
C'est
ce
quand
qui
même
semble
étonnant, ça.
paradoxal.
C'est quand même étonnant. Enfin, parce que dans l'image que l'on se fait habituellement
Oui.
de l'islam, l'islam apparaît comme une religion, disons, peut-être pas anti-féministe, mais enfin, disons, reléguant
Oui.
la femme à un second plan.
Oui, alors justement, ça permet de travailler un petit peu, de bousculer bien des idées reçues quand même sur l'islam, car les argumentations des convertis sont, en général, ils connaissent très bien l'islam, donc ils argumentent souvent très bien aussi. Et l'argument majeur des femmes qui se convertissent à l'islam, c'est qu'elles ont quand même le privilège de vivre l'islam en Occident, dans des pays quand même démocratiques, où les droits de l'homme sont tout de même respectés. Et donc elles vivent un islam débarrassé, selon elles, donc de tout ce qui est plus des coutumes, disons, des sociologies, des superstitions, qui pervertissent l'esprit originel du Coran.
Un
Donc
islam plus pur.
un islam plus pur. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est un islam idéalisé à l'occidental? Peut-être pas. Peut-être que justement, enfin, cet islam qu'ils pratiquent, qu'ils vivent en Occident, est peut-être plus fidèle à l'esprit originel du Coran que cet islam que l'on voit aujourd'hui, effectivement, pratiqué dans certains pays arabes.
Vous avez décidé de faire cette enquête avec une camarade.
Non.
Est-ce qu'au point de départ, vous aviez un certain nombre de personnes que vous souhaitiez rencontrer, interviewer, etc. Enfin, je parlais tout à l'heure de noms connus, on peut peut-être en nommer, par exemple, disons,
Oui.
Garaudy, Béjart,
Oui, bien sûr,
etc.,
nous avons
dont les noms
rencontré
circulent
M.
maintenant.
Garaudy,
Oui.
donc comme on sait, qui était avant chrétien et marxiste, qui d'ailleurs ne renie pas pour autant son marxisme aujourd'hui tout en étant musulman, qui est le plus, disons, la vedette, le plus célèbre parmi les convertis à l'islam en Occident, qu'on a parfois raillé un petit peu dans cette mise en spectacle qui fait aussi de sa conversion, puisqu'en fait on l'entend beaucoup sur le sujet. Béjart, Maurice Béjart, le chorégraphe aussi qui est chiite. Cat Stevens, la vedette pop des années 60, s'est convertie à l'islam aussi. Et les bruits qui courent sur le commandant Cousteau, sur Neil Armstrong. Enfin, souvent, il y a quand même une certaine presse un peu sensationnaliste
Alors,
qui en
est-ce que,
parle.
oui.
Alors, certains articles les confirment, les infirment.
Est-ce que ces conversions sont discrètes ou si au contraire, elles sont tapageuses?
La plupart sont discrètes, vous savez, la plupart sont. On raille un petit peu cette minorité qui en parle. La plupart, même si le témoignage fait partie de la foi pour eux, ils ne sont pas pour autant, pour la majorité, des propagandistes. En fait, les propagandistes, ceux qui font la dawa, ceux qui font la propagande active, font partie de cette minorité parmi ces convertis à l'islam qui ont choisi l'aspect le plus crispé, disons, de l'islam, l'aspect le plus intégriste, c'est un mot impropre, mais enfin, disons-le comme ça. Sinon, les mystiques, par exemple, les intellectuels, qu'ils soient suisses, anglais, allemands, etc., qui s'intéressent à la mystique musulmane, qui, selon eux, transcendent les religions, donc ils ne se convertissent pas par réaction, je veux dire, contre une tradition originelle qui les aurait déçus. Ils ont embrassé l'islam par intérêt, par désir d'une révélation qui pour eux englobe toutes les autres.
Si je vous comprends bien, donc pour un certain nombre, il ne s'agit pas d'un reniement.
C'est cela. Certains, effectivement, se sont convertis par réaction contre une tradition originelle qui les aurait floués. Alors là, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails, mais bon, on peut donner quelques raisons. Selon eux, la religion chrétienne aurait perdu l'aspect contemplatif, mystique, plus sacré, à vouloir, dans son évolution moderniste, surtout depuis le Concile de Vatican II, à vouloir s'adapter à l'évolution politique, socio-économique de la société, elle aurait perdu cette dimension qu'ils ont retrouvée intacte dans l'islam. Enfin, c'est une des raisons. L'opacité de certains mystères dans le christianisme, comme la Sainte Trinité, la divinité de Jésus, etc., qui ne comprenaient pas bien, qui vivaient mal. Ces mystères sont levés. Enfin, dans l'islam, ils vivent l'islam comme une religion plus rationnelle. Même si je ne reprends pas leurs propos, disons, car en fait, c'est un mystère en soi aussi de croire en un Coran incréé. Mais enfin, disons qu'ils vivent l'islam de manière plus rationnelle. Il y a moins de mystères étranges à intégrer. Mais ceux qui ne se convertissent pas par réaction, justement, ceux qui ne s'affirment pas en s'opposant à une tradition originelle ou en s'opposant à l'Occident, ceux-là insistent justement sur la conversion, refusent en fait le mot de conversion, car ils ne se sont pas convertis. Le mot conversion implique une idée d'apostasie, quand même, de reniement. Ils se sont accomplis, ils ont embrassé une révélation qui englobe, qui donne son sens à toutes les autres, et donc qui éclaire mieux pour eux le christianisme ancien.
Mais comment ont-ils rencontré l'islam ? Est-ce qu'ils l'ont rencontré, par exemple, chez quelqu'un d'autre, ou dans la mosquée, ou
là aussi, on a insisté sur toute la diversité des attitudes, des comportements. Bon, certains ont rencontré l'islam à travers une démarche livresque, plutôt une sorte de révélation, la lecture du Coran, qui semblait leur... Souvent, ils disent, le Coran me parlait comme à moi-même, j'avais l'impression de me retrouver face à la mer, le Coran s'adressait à moi directement. Bon, ils ont eu un choc à la lecture du Coran, ou alors un choc à la lecture de certains textes mystiques qui les ont enthousiasmés, Rumi, Ibn Arabi, enfin, bon, effectivement, la littérature musulmane est très riche de très beaux textes mystiques. Donc, parfois, la démarche a été livresque. Certains ont fait un parcours très exhaustif à travers toutes les religions, se sont fait toutes les objections à eux-mêmes avant de choisir l'islam. Je veux dire, sont passés par le bouddhisme, l'hindouisme, enfin, le Vedanta, l'hellénisme, les courants gnostiques, un parcours exhaustif à travers les religions et philosophies, disons, avant de choisir l'islam. D'autres, c'est simplement par la rencontre de musulmans, aussi bien dans leur lieu de travail ou au cours d'un voyage au Maghreb, par exemple, où ils ont rencontré ces êtres qui disent plus porteurs de cette spiritualité. Parfois, donc, une rencontre d'ordre humaine. Certains sont convertis par une démarche plus irrationnelle que d'autres, par coup de foudre. Maurice Béjart parle d'un coup de soleil à l'âme, par exemple. Et d'autres par une démarche plus rationnelle, comme je vous dis, très très longue, très très progressive.
Selon la mosquée de Paris, il y aurait 200 000 conversions à l'islam.
Oui, et c'est un chiffre minimum, car cela...
Minimum, selon vous.
Oui, c'était déjà les chiffres de 83, cela, et il paraît que ça continue, bien sûr. Depuis 15 ans, disons, on note un énorme mouvement. Donc ce phénomène qui paraissait d'ordre plus exotique, original, folklorique presque, avant-guerre, devient effectivement un fait de société qu'il faut constater et qui prête interrogation, qui fait partie du brassage quotidien des idées aujourd'hui, disons. Donc c'est un phénomène qui tend à se banaliser, qui devient en ce sens un phénomène sociologique. On ne peut plus faire l'économie de l'islam aujourd'hui, de l'ouverture à toutes les traditions, de cette interrogation ouverte.
Et votre enquête, vous l'avez menée en France ?
En France, en Suisse, en Angleterre.
Aux États-Unis ?
En Allemagne, France, Suisse, Angleterre, Allemagne et aux États-Unis.
Et vous constatez partout ce même mouvement.
ce même mouvement. Alors j'insiste dans toute sa diversité, parce qu'il y a une unité dans les modes de conversion, des leitmotivs, des raisons qu'ils avancent. Mais disons qu'au fur et à mesure de notre enquête, on a été très surprise de voir cette diversité. Bon, tous les visages de l'islam, comme les écoles islamiques sont très diverses, il est normal que les convertis en Occident embrassent tel ou tel visage de l'islam. Donc, selon qu'ils sont au départ plus conservateurs, plus libéraux, plus réformistes, ils ne vont pas, disons, interpréter l'islam de la même manière. Ah oui. Voyez, donc le rapport à la charia, à la loi, ne sera pas vécu de la même manière non plus. Donc on a été frappé par cette diversité dans les motivations, les raisons et les visages de l'islam.
Oui. Bah, parlons précisément des visages, des visages aussi de l'islam, si vous voulez bien, n'est-ce pas? Oui. Visage de l'islam, par exemple, en France, les musulmans sont souvent des travailleurs manuels, pauvres, et souvent venant d'Afrique du Nord, et souvent aussi accablé d'un certain mépris.
Oui.
Comment les convertis surmontent-ils cet obstacle-là?
Bon, disons que comme nous, comme tous, ils ne font pas l'amalgame, vous voyez, entre ils ne font pas rimer, disons, le islam avec fanatisme. Donc, le fanatisme n'est pas le fait de l'islam. On peut aussi embrasser l'islam comme n'importe quelle idéologie, comme n'importe religion. N'importe quelle religion, pardon, avec fanatisme, mais disons que le fanatisme n'est pas le fait de l'islam.
Oui, mais je n'ai pas parlé de l'islam, j'ai pas parlé du fanatisme de l'islam, j'ai parlé de l'image qu'en France, souvent, l'islam revêt, c'est-à-dire religion d'ouvrier.
Religion d'ouvrier. Vous avez beaucoup d'ouvriers, ne pratiquent plus aussi, pas toujours ouvertement leur foi. Donc,
Oui, mais beaucoup de... Enfin, vous avez en France quand même un certain nombre
effectivement.
D'immigrants.
Mais là, justement, souvent, ça c'est les raisons plus sociales. Les convertis sont souvent frappés par des valeurs que ces communautés d'immigrés en France ont gardées, de fraternité, de générosité, des valeurs plus sociales, justement, comparées à l'émiettement social en Occident. À la désacralisation un peu de la famille, etc., certains occidentaux sont frappés de voir ces immigrés vivre. Donc ça, c'est des raisons, un aspect plus social, effectivement.
Et alors, revenons au fanatisme, si vous permettez. Oui. Donc, le fait qu'actuellement, un certain nombre de pays affichent carrément leur lien entre une certaine politique et la foi musulmane, cela ne gêne pas quand même.
Ça ne gêne pas parce que je vous le disais, dans cette diversité dont je parle, c'est une minorité. Ça, je crois que nous avons été suffisamment clairs dans le livre, c'est une minorité de convertis donc à l'islam en Occident qui embrasse cet aspect crispé qu'on voit aujourd'hui dans certains pays. Donc c'est une toute petite minorité. Et donc pour eux, embrasser l'islam ne... Ils n'ont rien à voir avec cela. Au contraire, tous ces visages de l'islam qu'on voit aujourd'hui, ces querelles politiques, théologiques, etc., sont pour eux des perversions. Ils n'ont rien à voir avec l'islam originel. D'ailleurs, la plupart des convertis disent que la plupart des musulmans aujourd'hui devraient se reconvertir à l'islam. Vous voyez que mieux vaut vivre l'islam en Occident, dans des pays libres, etc.
Ils n'imaginent pas qu'ils pourraient aller vivre, par exemple, en Iran ou en Syrie ou en Libye.
Non.
Ils sont heureux d'être occidentaux.
Absolument.
Donc pas un rejet.
Ils ne vivent pas en contradiction justement de vivre l'islam en Occident. Ouais. Cet islam plus tolérant, plus ouvert, plus fidèle selon eux. Donc à l'esprit originel du Coran, ils le vivent plus facilement en Occident plutôt que dans ces pays, effectivement, certains pays où dépendent d'une législation beaucoup plus.
Mais quand même, le fait d'adhérer à une idéologie ou à une religion peut entraîner des changements culturels. Est-ce que par exemple, prenons l'exemple du Ramadan, par exemple, du Ramadan.
Le Ramadan, ils pratiquent le Ramadan. Vous savez, la plupart pratiquent tous les piliers de l'islam. Les mystiques aussi, contrairement à l'idée que l'on a un petit peu des mystiques qui se mettraient volontiers un peu au-dessus des lois, ils pratiquent tous les piliers de l'islam, leurs prières, le Ramadan, le pèlerinage, etc. On ne se convertit pas pour des eaux tièdes, de toute façon, en général. Donc, s'ils se sont convertis, c'est vraiment pour pratiquer. Mais ce qui change, c'est l'adaptation, l'interprétation, en fait, de la loi, de la charia.
Oui, mais enfin, l'islam est quand même lié à une culture.
Oui, effectivement, c'est un mode de vie. Oui. Alors, certains font la confusion, d'ailleurs, avec le mode de vie arabe, par exemple. Certains vont jusqu'au mimétisme, enfin, ont un petit peu ce zèle des néophytes. Croient plus affirmer leur foi en mimant un petit peu les coutumes arabes dans l'appartement, dans la façon de s'habiller.
Se vêtir.
En Allemagne, par exemple, nous avons rencontré beaucoup d'Allemandes musulmanes qui revendiquent le voile aujourd'hui, vous voyez. Alors qu'en France, c'est plutôt un islam de bon ton, riche en attraits culturels, mais les femmes ne se croient pas obligées de porter le voile, enfin, l'habit ne fait pas le moine pour elles. Elles disent que selon eux, cela n'a rien à voir. De toute façon, le voile n'est pas islamique, on le rencontre aussi en Sardaigne, au Portugal, enfin, dans tout le pourtour méditerranéen. Et souvent, on impute effectivement à l'islam des choses qui sont bien plus anciennes, qui remontent aux plus vieilles civilisations patriarcales.
Vous avez interviewé donc ces gens-là, enfin ces convertis, mais est-ce que vous avez pu, à travers les discussions que vous avez eues avec eux, percevoir la réaction de leur entourage, leur entourage familial, leur entourage de travail, comment les gens réagissent-ils à ce mouvement?
Certains l'acceptent très bien, tout dépend effectivement de la nature, du tempérament des familles. Certains l'acceptent très bien, disons que ça se vit de plus en plus, de mieux en mieux. Et d'autres sont pris effectivement pour des fous, des renégats, nous avions Maurice Perrier, nous avons cité Maurice Perrier qui travaille au Quai d'Orsay, enfin, et qui est maintenant au ministère de l'Intérieur en France. On lui a dit carrément d'aller se faire psychanalyser. Alors certains sont pris pour des fous, des originaux, effectivement, de se convertir à l'islam. Alors que bon, ce n'est pas si extraordinaire que cela.
Mais vous-même, est-ce que vous avez senti souvent chez ces personnes, sans nommer l'une ou l'autre, est-ce que vous avez senti un espèce de mouvement spirituel qui, au fond, aurait pu être vécu justement dans une analyse ou enfin dans une autre expérience spirituelle que celle de l'adhésion à une foi comme l'islam?
C'est-à-dire qu'il faut être très prudent dans cet éclairage plus ou moins psychanalytique. Bon, certains formulent très clairement qu'avant leur conversion, disons qu'il y avait un trouble existentiel, donc des problèmes de solitude, d'angoisse, un trouble existentiel qui s'est résolu, qui s'est apaisé justement dans ce pari sur la transcendance, dans ce choix d'un islam qui devient un code de vie. Effectivement, la dimension code de vie est très importante par rapport au christianisme. Ils insistent beaucoup sur l'islam comme code de vie qui codifie toute la vie quotidienne, alors bon, qui n'est pas simplement une religion, mais vraiment qui englobe tous les aspects de la vie quotidienne. Voilà. Et alors pour cela, qui donc vivait très mal cette liberté au fond de...
Et puis,
mais le pari, ils ont quand même fait au départ le pari de la croyance. Effectivement, là où l'athée, par exemple, va voir du hasard dans certains signes, eux vont déjà faire une interprétation religieuse de certains signes, de certains rêves, par exemple. Certains nous ont dit « je serais devenu fou si je ne m'étais pas converti ». Alors effectivement, pour certains, ça peut être considéré comme une alternative à l'analyse, mais il faut être très très prudent dans ces... Parce que justement, d'un point de vue agnostique, athée, on pourrait dire, mais enfin, la plupart, ça doit être des fous, des névrosés, des refoulés. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que certains, effectivement, avaient une difficulté, mais ils n'ont pas embrassé l'islam. Ça n'a rien à voir avec le phénomène des sectes, vous voyez. Pour moi, ce retour à la tradition, on dit, je fais vraiment la différence de ces groupes que j'ai rencontrés en Occident, ces tariqas, par exemple, ces ordres mystiques, qui sont sous la direction d'un shir, d'un maître spirituel, et ce que j'ai pu voir dans certaines sectes, enfin, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux et les mêmes méthodes.
Est-ce que vous pourriez développer un peu, justement? Pas le même enjeu, pas les mêmes méthodes. Alors, quel est précisément pour vous l'enjeu de ces gens qui vont voir un cheikh, qui vont demander une direction spirituelle à quelqu'un qui se présente comme un mystique ou enfin comme un sage?
Disons qu'au départ, j'étais très sceptique sur tout cela. Enfin, bon, on est tous nourris du discours de la servitude volontaire, par exemple, de la Boétie. Donc, on peut se dire, enfin, se soumettre, se mettre dans les mains d'un shir, d'un maître spirituel, comme ça, c'est une démission, c'est une de la personnalité, c'est une abdication de soi. Mais eux ne le vivent pas comme une abdication, vous voyez. En fait, de toute façon, c'est le départ d'une démarche mystique d'accepter la direction d'un maître spirituel. Et j'ai appris à nuancer, disons, à ne pas aborder cela avec une ironie facile. Cela dépend effectivement du maître spirituel. S'il s'agit d'un gourou, bon, c'est tout à fait ridicule et cela fait peur plutôt. Il y a aussi des gourous en islam. Mais s'il s'agit d'un maître spirituel qui vraiment est authentique, a une connaissance beaucoup plus approfondie que les disciples qui cherchent son enseignement, pourquoi pas? Ils vivent donc dans la tariqa, dans ce petit groupe qu'est la tariqa, un microcosme de famille idéale, finalement. Donc, où ils pratiquent certains rites musulmans très anciens, comme le dhikr, l'incantation des noms de Dieu. C'est d'ailleurs très beau, ce rite du dhikr. Et en même temps, ils trouvent là une famille idéale. Nous avons été très frappés par ces atmosphères en Amérique, par exemple, où effectivement certains vivent ces sociétés occidentales comme des sociétés d'égoïstes, où chacun vit son chemin, vidé de valeurs, vidé de un monde sans âme, quoi, une société. Et donc, ils retrouvent cette solidarité oubliée, finalement, dans ces groupes où ils ne rencontrent pas que des convertis à l'islam. Je dis, il y a aussi des musulmans de souche
Au plan métaphysique, on a souvent lié islamisme et fatalisme. Est-ce que c'est un cliché ou si c'est plus profond que ça, si c'est vrai, si ça vous a semblé réel?
Enfin, vraiment, ça me semble vraiment un cliché, islam, polygamie, fatalisme, etc. Tout ça, effectivement, c'est des clichés qui sont plus dus à l'ignorance qu'à une forme de rejet ou de racisme parfois, mais à une ignorance énorme. Et plus on approfondit, plus on se rend compte, effectivement, qu'il s'agit là de clichés. Islam, effectivement, veut dire islam, le mot islam connote cette idée de soumission, mais plus j'insisterai davantage sur l'idée d'abandon, vous voyez, que de soumission. Soumission me paraît plus moins heureux, disons. Mais abandon, je veux dire, quel est le croyant, qu'il soit chrétien ou musulman, le croyant fait ce pari de l'abandon à Dieu, je veux dire, à l'idée divine, disons. Donc, fatalisme, ça me semble un petit peu faux de le dire comme ça. Je dirais effectivement d'abandon à l'idée divine et donc d'acceptation de son destin. Alors bien sûr, c'est à l'opposé de la révolte qui sous-tend bien des mouvements d'idées en Occident. Mais pour ces convertis-là, justement, la révolte s'est épuisée parfois. Certains ont parcouru toute la gamme des aventures politico-culturelles des derniers 20 ans. Il y a 20 ans, ils étaient...
ils étaient sur les barricades.
C'est cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce retour au religieux? Enfin, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas simplement vers l'islam qu'on peut le constater. C'est aussi certains reviennent au christianisme d'une manière beaucoup plus... Vous voyez, ce retour...
Oui, d'ailleurs, vous avez interviewé des gens qui sont passés
On a tenu à mettre en perspective d'autres cas de conversion. Bon, on a parlé plus cadré sur l'islam, car là est le phénomène sociologique, quantitativement, je veux dire. Donc, on note beaucoup... Et je précise que l'islam est la deuxième religion en France pratiquée, compte tenu des immigrés, bien sûr, mais c'est la deuxième religion pratiquée avant le protestantisme. Ça, c'est quand même... Mais nous avons tenu à mettre en perspective d'autres cas de conversion pour... La réflexion était plus riche ainsi. Donc, des chrétiens convertis au judaïsme, des juifs convertis au christianisme, mais aussi des musulmans devenus chrétiens, ce qui est beaucoup plus difficile à rencontrer. Oui. Car selon la charia, si on interprète la charia à la lettre, renier l'islam, c'est vraiment la peine de mort.
C'est mérité la mort.
C'est la peine de mort. Donc c'est pour cela que nous avons rencontré un musulman devenu chrétien, enfin devenu pasteur, et qui tient à garder l'anonymat pour des raisons que l'on comprend.
Son frère fondamentaliste
a cherché à empoisonner. Donc il a passé plusieurs mois à l'hôpital et effectivement c'est un cas très... Et lui a trouvé sa tradition dans le Christ, dans le protestantisme, voyez, dans l'incarnation en fait en Jésus-Christ. Il a eu besoin... Nous avons cité aussi un autre cas, ce Marocain Mohamed Abdeljalil qui quand il est devenu père franciscain a été enterré symboliquement par sa famille parce qu'il était mort spirituellement. Donc pour les juifs aussi, quitter le judaïsme, il y a cet enterrement symbolique, on est mort spirituellement, on a renié pas seulement la religion, mais toute la communauté. Donc c'est parfois très mal vécu, effectivement.
Alors de façon plus générale, comment vous interprétez ces mouvements de conversion? Est-ce que vous avez pris ce recul actuellement pour abstraire un peu des cas concrets, de l'analyse sociologique, et pour arriver à une vision, disons, plus générale?
Disons qu'au positif, cette recherche, finalement. Enfin, les convertis représentent un pont, quand leurs raisons sont vraiment positives, pas simplement négatives, réactives, mais positive, il représente un pont entre deux cultures qui me semble très intéressant. Cette ouverture de l'Occident vers l'Orient et réciproquement, donc en dehors de ces antinomies qui ne font que crisper ses préjugés, ses oppositions, ça me semble très intéressant le pont qu'il représente et qui permet de mieux éclairer l'une et l'autre des deux traditions. Alors certaines idées que l'on avait au départ, c'était intéressant bien sûr de faire ce livre à deux, enfin avec ce double regard, moi d'éducation catholique française et mon ami d'éducation traditionnelle musulmane. Voyez donc il y avait quand même ce double regard qui était intéressant. Alors certaines idées ont été confirmées, par exemple que le fanatique le reste, quel que soit son trajet. On peut se demander, en se convertissant à quelque chose, est-ce que l'individu change, par exemple ? Est-ce que l'individu change en changeant de croyance ? Non. Là, je réponds non. Je veux dire, l'individu reste ce qu'il est, il change de demeure, mais pas d'être. Donc s'il était tolérant avant, dans le christianisme ou dans tel ou tel mouvement politique, il va le rester, il va choisir dans l'islam l'aspect le plus tolérant, le plus ouvert, le plus anti-fanatique, vous voyez ? Donc que le fanatique le reste, quel que soit son trajet, ça a été confirmé. Nous avons cité cette communauté de Grenade, donc de 300 Espagnols convertis à l'islam, dont la majorité des ex-hippies des années 60, mais aussi des anciens gauchistes, maoïstes, trotskistes, et qui ont féministes aussi, et qui ont embrassé l'islam le plus crispé. Alors, donc ils n'ont pas voulu être interviewés par nous parce que nous étions des femmes, c'était soi-disant pas islamique d'être interviewé par des femmes. Ils ont pratiquement injurié mon amie Fatima car elle n'avait pas le voile, elle était très décente, mais enfin elle n'était pas en dite tenue islamique, ce que beaucoup de convertis refuseraient d'ailleurs comme terme. Et donc là effectivement ils étaient fanatiques en politique, ils le sont restés en religion, vous voyez, donc ça effectivement c'est clair. Mais par contre, certaines idées ont été plus nuancées, ont été chamboulées par cette enquête et permettent justement une ouverture plus grande chez nous aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons rencontré des êtres qui sont convertis à l'islam, qui ont gardé tout leur sens critique, leur humour, leur intelligence, leur ouverture, leur tolérance.
Ils n'ont pas cherché à vous convertir.
Et qui n'ont pas cherché à nous convertir, qui ne sont pas prosélytes, non, mais qui vivent leur équilibre comme ça. C'est un peu une sorte de révolution finalement immédiate, enfin, de l'intérieur. Donc, on choisit la cohérence d'un système où tout s'accorde avec une axiomatique bien précise et qui ne dépend pas des aléas, justement, du politique, du social.
Et vous-même, avez-vous...
Ou de l'amour.
Avez-vous, vous-même, le goût de changer quelque chose après cette enquête ?
Ça a ouvert une curiosité nouvelle, oui. C'est-à-dire que, disons que là, maintenant, j'ai besoin de connaître davantage cette tradition, de pratiquer différentes sortes de lectures en même temps. Donc là, ça a ouvert une curiosité du côté de la mystique, mais donc dans l'aspect plus spirituel que religieux au sens étroit. Disons que dans l'aspect mystique, cela a ouvert une curiosité que je continue à vivre d'ailleurs. Alors maintenant, je lis aussi bien Nietzsche qu'Ibn Arabi, par exemple, ou Rumi que Baudelaire, vous voyez. Mais disons que j'aime cet enrichissement, je le désire, je trouve ça très intéressant de... Il ne faut pas rester fermé sur soi-même. Enfin, je trouve que tout ce qui est ouverture, connaissance de l'autre, connaissance au sens de naître avec, c'est toujours, toujours très enrichissant sur le plan de l'individu, quoi, vraiment.
Oui.
Mais enfin, donc j'ai beaucoup nuancé quand même certaines idées aussi que j'avais sur la religion, que j'ai pu parfois connaître dans des aspects plus étroits, plus... Mais certains êtres m'ont... Effectivement, nous avons fait des rencontres assez extraordinaires quand même. Mais d'autres qui effectivement nous ont donné la chair de poule et nous ont fait ça, c'est très, on n'a pas pu éviter toute la subjectivité, vous voyez, dans ces enquêtes, et on la raconte d'ailleurs dans le livre. On est parfois très impertinente, on ne s'évite pas le petit grain de sel parfois nécessaire à un sujet aussi grave, et tout dépend finalement de la nature des gens rencontrés. Il n'y a pas donc on a... Enfin, il faut quand même être très prudent dans tout cela. Et au fond, qui n'est pas converti à quelque chose, enfin,
ou toujours à convertir.
Ou le converti qui sera peut-être demain, effectivement.
Elisabeth Rocher, je vous remercie.
Merci à vous.